I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Vous connaissez peut-être Fiona Schmidt, féministe engagée, écrivaine et la créatrice du fabuleux compte Instagram Bordel de mère. Fiona ne veut pas d'enfants, elle est ce que l'on appelle une nullipare, et dans cette société bien pensante, ce n'est pas toujours bien vu. Fiona ne veut pas d'enfants, mais son chéri, lui, en a trois. Fiona ne veut pas d'enfants, mais elle a compris avec les années que la charge maternelle concernait toutes les femmes, elle comprise. Dans cet épisode, elle nous parle de son désir de ne pas avoir d'enfants, comment elle a vécu ce choix dans un monde où la femme doit devenir mère, elle nous parle des centaines de témoignages qu'elle reçoit chaque jour sur la charge maternelle et de son livre à venir prochainement, Lâchez-nous l'utérus. Bonne écoute! Bonjour Fiona, merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour te raconter dans le tourbillon.
Bonjour Shane.
Alors, écrivaine compulsive, voyageuse en série et rêveuse dans l'âme, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Alors, c'est de plus en plus difficile à résumer, on va dire. À l'origine, je suis journaliste, je le suis toujours, mais j'écris de plus en plus de livres. J'ai un blog aussi et je suis... J'aime pas dire instagrammeuse parce que voilà, mais enfin c'est, il se trouve que Instagram est vraiment je considère vraiment mes deux comptes Instagram, mon compte perso et Bordel de mère, comme des médias que j'alimente, voilà. Donc
est-ce que tu as toujours aimé, voulu écrire?
Alors c'est un peu plus que ça, c'est-à-dire que je veux écrire depuis que je sais dans quel sens tenir un stylo, et je n'ai jamais envisagé de faire autre chose, mais jamais. C'est-à-dire que la première fois, je crois qu'on m'a posé la question, ça devait être une institutrice au CP très tôt, qui me demandait à la classe ce qu'on voulait faire, et moi j'avais dit écrivain. À l'époque, on disait pas écrivaine encore, mais donc j'avais dit écrivain. Mais voilà, j'ai toujours voulu écrire, toujours.
Et alors, comment est né et quand est né ton blog Thank God It's Fiona?
Ça fait un peu moins d'un an, je crois. En fait, il y avait eu plusieurs tentatives de blog qui ont jalonné mon parcours professionnel. Moi, je viens de la presse féminine, donc j'écris de moins en moins dans la presse féminine. Et de plus en plus dans la presse féministe, qui ne sont pas toujours les mêmes. Et en fait, au début, donc j'écrivais dans un magazine qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Bi, et qui était un magazine à 360, c'est-à-dire qu'il y avait, une grosse partie de l'éditorial, enfin un contenu spécifique sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et j'avais un blog à l'époque sur bi.com, donc qui était indépendant de la rédaction, donc c'était pas de la retranscription d'éditorial qu'il y avait dans le magazine. Et c'était un blog sur lequel j'écrivais beaucoup sur la mode parce que j'aime beaucoup la mode. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, et ça a vraiment coïncidé avec ma prise de conscience féministe, je me rendais compte que j'avais de moins en moins envie d'écrire sur la mode, ou en tout cas sur la mode telle qu'on la voyait, telle qu'on la conçoit, et de plus en plus sur des sujets qui me préoccupaient davantage. Et en fait, au bout d'un moment, c'était censé être un blog mode, et je me rendais compte, mais les lectrices se rendaient compte que j'écrivais de moins en moins sur la mode. Donc, puis en plus, Bi s'est arrêté, donc du coup je n'écrivais plus sur un blog. Et puis j'ai eu envie d'écrire, sur des sujets qui moi me tiennent à cœur, Donc j'ai créé ce blog pour ça, en fait. J'aime bien cette idée d'Instagram, des réseaux sociaux, des blogs, d'Internet en général, parce que, et des podcasts d'ailleurs, parce que j'adore la spontanéité de la démarche, c'est-à-dire qu'on n'attend pas, que ce soit les Instagrammeuses, les YouTubeuses, les podcasteuses, je ne sais pas comment on dit, peu importe, on n'attend pas qu'on nous donne la parole pour la prendre, et ça je trouve ça, et c'est très facile en fait de la prendre, c'est-à-dire que, enfin c'est très facile, moi je ne sais pas, et il suffit de savoir créer une page sur WordPress, quoi, en gros. Alors, je dis ça comme si c'était facile. Moi, je suis à peine capable d'envoyer un mail, hein. Mais enfin, bon, disons que c'est facile de trouver quelqu'un qui sait à ta place. Mmh. Et sur Instagram, je sais comment, voilà. Et je trouve que cette spontanéité de la parole, de la prise de parole, c'est formidable. Et on n'a pas toutes les contraintes, que je connais bien. Comme j'ai travaillé pendant très longtemps, enfin pendant 10 ans au sein de rédactions de gros magazines, et c'est vrai qu'il n'y a pas de contrainte éditoriale, et ça c'est formidable en fait. C'est tu écris ce que tu veux exactement comme tu veux, sur le format que tu veux, et ça c'est formidable en fait. Et puis ce que j'adore aussi à la fois sur Instagram et sur le blog, c'est l'interaction avec les gens que t'as pas dans un magazine.
Et alors aujourd'hui, tu t'exprimes beaucoup au sujet des droits des femmes, de leur place dans la société. Mm-hmm. Est-ce que tu te considères féministe ?
À fond. Ah ben, c'est-à-dire que... oui, enfin oui. Oui.
Et alors, c'est quoi pour toi être féministe ?
Ben, être féministe, c'est constater que, effectivement, si les femmes en France ont les mêmes droits que les hommes, elles n'ont absolument pas encore les mêmes libertés ni les mêmes opportunités. Et être féministe, c'est dénoncer ça. Voilà.
Et alors, sur un autre sujet, mais qui est très lié, hein, la maternité, parce qu'on est là.
Ah, mais c'est, alors, c'est exactement. Mais en fait, c'est au cœur de tout. Mmh. C'est-à-dire que la maternité, excuse-moi, je te coupe, Shane, c'est en fait la façon, la maternité, ou la parentalité, plus exactement, elle est au cœur des inégalités hommes-femmes. Au cœur, voilà.
Et toi, donc, tu ne souhaites pas avoir d'enfant ?
Je ne veux pas avoir d'enfant, non.
À quel moment de ta vie tu as compris que c'était ton désir ?
Ça, c'est intéressant, la façon dont tu en parles, parce que tu as dit à quel moment tu as compris que c'était ton désir. Et en fait, effectivement, pour moi, c'était un vrai désir. Et quand on en parle de plus en plus, heureusement, des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfant, mais on parle de non-désir. Et pour moi, ça a toujours été un désir. Alors après, je vais répondre à ta question, bien sûr, mais pour moi, ça a toujours été un désir de construire ma vie et de garder ma vie telle que je l'avais construite et telle que je l'ai toujours choisie, en fait. Donc c'est vraiment, il ne s'agit pas d'un manque, il ne s'agit pas d'un non-désir, mais vraiment d'un désir, c'est-à-dire d'un élan. C'est très péjoratif, rien que ça, de parler de non-désir, ça quand même, c'est un truc très statique, tu vois, c'est pesant, quoi. Le non-désir, c'est un truc qui évoque la mort pour moi, enfin la mort un peu spirituelle, alors que alors il peut s'agir de non-désir, bien sûr, on peut ne pas avoir envie d'enfant, mais moi, c'est avant de ne pas avoir envie d'enfant, j'avais envie d'avoir une vie sans enfant, ce qui est très différent, je trouve, comme façon d'appréhender les choses. Alors moi, j'ai toujours su que je ne voulais pas d'enfant, je l'ai toujours su, et en fait je me suis rendu compte que les petites filles étaient socialisées extrêmement jeunes autour de la maternité. C'est ce qui différencie les petites filles des petits garçons. Et c'est ce qui contribue à l'inégalité de genre dès le départ. C'est-à-dire que nous, les filles, avant même de savoir parler, avant même de savoir qu'on a un sexe ou qu'on a un genre, on nous colle un poupon dans les bras. Et on nous dit, bah, tu joues à la maman. Enfin, et on joue à la maman. On joue, ce qui est très drôle, d'ailleurs, parce qu'on dit, on joue pas vraiment à la poupée. On nous dit, les adultes nous disent, tu joues à la maman. Et puis ensuite, ça continue dans la cour de l'école. On nous dit, ou les copines, mes copines, elles me disaient, mais comment tu appelleras tes enfants quand tu seras grande ? Et pour moi, ça me paraissait déjà absurde. Et donc cette question de la maternité, elle intervient très tôt, très très tôt pour les petites filles. Alors que les garçons se projettent pas du tout, ça fait pas partie de la socialisation des garçons, la paternité, pas du tout. D'abord, même s'ils sont, eux, ce qu'on n'appelle pas des poupées, mais qui sont des poupées. Enfin, les Playmobil, c'est des poupées, les G.I. Joe, c'est des poupées. Je sais pas quoi, je sais pas si les petits garçons jouent encore aux G.I. Joe.
Pas de mien, en tout cas.
Bon. Mais enfin, j'imagine qu'il existe des trucs, des figurines en plastique qui s'appellent des poupées. Enfin, bon. Mais on leur dit pas dans, enfin, on leur apprend pas à en prendre soin. On leur dit pas que c'est de leur bébé. Et donc, les garçons se projettent dans la parentalité et dans la paternité, ce qui est un peu différent, beaucoup plus tard, souvent à l'âge adulte, et au sein d'un couple, qu'il soit hétéro ou homo. Mais en général, les garçons se projettent dans la paternité une fois qu'ils sont d'abord des hommes et ensuite en couple. Souvent. Le désir d'être père, c'est un truc qui est pas conçu et c'est même un truc un peu tabou. Alors je sais qu'il y a des, évidemment c'est ridicule. Il y a des hommes qui veulent être père, mais c'est un signe de faiblesse dans la société. Alors qu'à contrario, pour une fille, moi je l'ai toujours exprimé très 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 simplement mon désir ou mon non désir d'enfant. C'est un truc marginalisant. Donc en fait, c'est vraiment un double standard. C'est-à-dire que vouloir un enfant pour un garçon en dehors du couple, un peu trop jeune, voilà, c'est marginalisant. Et ne pas en vouloir pour une fille, c'est marginalisant. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Du tout, en fait. C'est très inquiétant, mais...
Et est-ce que tu t'es posé des questions par rapport à ce désir de ne pas vouloir d'enfant ?
Ah mais bien sûr, mais
d'être marginal du coup.
Ah mais bien sûr, mais parce que cette question-là te marginalise et en fait ça m'a marginalisé très très tôt. J'ai des milliards d'anecdotes que je pourrais te raconter, mais le fait de ne pas vouloir d'enfant, c'est être considéré comme une freak et très tôt. Non seulement par les adultes, mais aussi et surtout, et c'est ce qui importe le plus. Par tes copines, quoi. Par tes copines et même par tes mecs, plus tard. Alors ça, c'est très bizarre. Ça, c'est très bizarre parce que, donc, comme je te le dis, moi, j'ai jamais eu de mal à exprimer parce que j'ai pas à être embarrassée, même si apparemment, je devrais, puisque ça reste encore extrêmement tabou. Enfin, c'est un peu le fait de ne pas vouloir d'enfant, ça continue d'être considéré comme une erreur 404, un peu, chez les femmes. Donc c'est... Bon. En fait, j'ai été amenée, évidemment, à me poser des questions, puisque le fait de ne pas vouloir d'enfant pour une femme pose question, socialement. Donc, et comme je suis évidemment un animal social, je peux pas ne pas me poser de questions. C'est-à-dire que, comme on considère que ce n'est pas normal, et qu'il n'y a pas un jour, depuis que je suis gamine, mais vraiment petite, où on m'a pas dit que c'était bizarre... Je suis obligée de me poser des questions sur ma propre normalité, évidemment. Donc je me suis interrogée sur ma... Mais même l'absence de désir d'enfant dans la psychanalyse, c'est une pathologie. Grâce à Monsieur Freud, le bon docteur Freud, pour qui l'orgasme clitoridien était un orgasme puéril. Hein. Donc il ne croyait pas au clitoris, bon docteur Freud. Mais les fondements de la psychanalyse sont eux-mêmes ultra sexistes, et cette absence de désir d'enfant, c'est pathologique, oui, dans la psychanalyse, et ça reste imprégné dans notre inconscient collectif, je pense. Enfin, c'est-à-dire que c'est tellement, en fait, la maternité est tellement liée à la féminité que ne pas être mère, c'est déjà un problème, mais ne pas vouloir être mère, c'est carrément un tabou. Enfin, c'est un problème. Enfin, c'est au-delà d'un problème. Comme je le disais, c'est pathologique, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si on renonçait à être féminine. C'est comme si on renonçait délibérément à être femme. Donc c'est un truc très identitaire, en fait. Ça aussi, par exemple, on ne dit jamais d'un homme qu'il n'est pas homme avant d'être père. Mais on dit d'une femme. On dit toujours d'une femme, en presque 2020, on dit toujours d'une femme qu'elle n'est pas femme avant d'être mère. Donc en fait, on dit qu'elle n'est pas adulte avant d'être mère aussi. C'est fascinant quand même.
Est-ce que ça a eu un poids sur toi, du coup, sur un moment de ta vie ?
En fait, ça a eu un poids sur l'ensemble de ma vie. Hein, et aujourd'hui, j'ai 37 ans. Et ça fait pas très longtemps que j'ai détricoté tout ça. Et que je suis plus en colère par rapport à... Parce qu'en fait, ça m'a rendue très en colère, ce miroir qu'on me renvoyait de moi. cette anormalité que je voyais quand j'en parlais librement. Et en fait, je me suis rendu compte que, au bout d'un moment, tu crées des mécanismes de défense. C'est-à-dire que systématiquement, quand j'en parlais, on me demandait pourquoi, comme si c'était de base un problème. On demande jamais à une femme qui dit qu'elle veut des enfants ou qu'elle est enceinte. Pourquoi t'es enceinte? Tiens, pourquoi t'es enceinte? Ce serait horrible. Bon. Mais une femme, encore aujourd'hui, une femme qui dit qu'elle ne veut pas d'enfant, on lui demande systématiquement pourquoi. Comme si il y avait une raison. Et que cette raison... En fait, j'ai remarqué que quand on te demande pourquoi tu ne veux pas d'enfant, en fait, on ne te pose pas vraiment la question. On te rappelle à l'ordre. Mmh. On te dit que ce n'est pas normal.
Qu'est-ce qui va passer
parce que,
toi,
parce qu'en réalité, parce que j'ai longtemps répondu à cette question. Mais en réalité, je me rends compte que quelle que soit la réponse à cette question, il n'y a pas de bonne réponse. Mmh. Il n'y a jamais de bonne réponse. Puisque systématiquement, on va te dire, on me le dit encore, alors que mon utérus commence à être un peu vintage, mais on commence... on continue de me dire, oh, mais ne t'inquiète pas, tu changeras d'avis. Mais je ne m'inquiète pas, les gars. Mmh. C'est... Fin, tu vois, et on continue de vouloir me faire changer d'avis ou de voir ça comme une je sais pas une faiblesse ou un manque ou donc quelle que soit ma raison, en fait la réponse qu'on me fait, c'est toujours tu changeras d'avis, et souvent en me disant ne t'inquiète pas virgule tu changeras d'avis.
Est-ce qu'il y a eu des réactions de ton entourage proche? Comment ils ont réagi?
J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont jamais foutu une pression à ce sujet, quoi, jamais. Enfin, ça n'a jamais été un problème. Ils ont toujours su que je ne voulais pas d'enfants et ils m'ont jamais foutu une pression à ce sujet, quoi, jamais. Jamais, jamais, jamais. Mes parents, mes deux parents, ne m'ont pas élevée comme une fille, mais comme un individu libre de ses goûts et de ses choix. Et donc moi, j'ai pas eu tout le rituel poupée, etc., etc. Enfin, mes parents m'ont pas. Moi, je scalpais mes poupées. Hein. Quand j'étais enfant, j'étais vraiment Mercredi Adam, ça. Et ça n'a pas beaucoup changé. Bref. Donc j'avais des poupées, mais je jouais pas avec elles de manière conventionnelle, c'est-à-dire que je les tatouais, ça m'est resté. Je les tatouais et puis ensuite je leur rasais les cheveux et ensuite je les enterrais dans le jardin. Donc elles avaient une durée de vie assez courte, les pauvres. Mais je les considérais pas comme mes enfants du tout. J'avais pas de poussette, j'avais pas de. Et alors on me demande souvent est-ce que t'étais garçon manqué, mais en fait pas du tout. J'étais un individu, c'est-à-dire que j'adorais les trucs estampillés de filles. Il y avait des trucs que j'adorais le maquillage, j'adorais me m'habiller, j'adorais et puis j'adorais aussi grimper aux arbres, je me battais beaucoup, j'étais pas un garçon manqué, j'étais moi en fait. Et donc mes parents n'ont jamais jugé que c'était un problème, que j'étais pas une petite fille classique. Jamais. Ils m'ont jamais dit tu devrais être plus féminine, tu devrais moins grimper aux arbres, tu devrais moins te battre. Donc ils se sont jamais inquiétés vraiment pour ça, quoi. En plus on vivait à l'étranger, donc c'était un autre contexte. Enfin, on était étranger dans un pays étranger. Enfin bon, bref. Donc on était dans une espèce de bulle. Donc et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas les codes de la féminité, puisque j'avais pas les codes de la maternité, enfin que tout ce qui concernait la maternité ne m'intéressait pas et ne voilà. Je m'en suis rendu compte à l'adolescence en fait, parce que tout ce qui ressort de la maternité est intimement lié évidemment au couple. Et on dit aux filles très tôt là aussi. On leur parle d'amoureux qu'elles ont alors qu'elles savent même pas ce que c'est le sentiment amoureux, tu vois. On leur dit t'as un petit amoureux, enfin savent même pas ce que c'est ridicule. Puis en plus c'est hyper hétéronormé, elles sont peut-être lesbiennes, enfin c'est absurde. T'as un petit amoureux, non, je joue avec un petit garçon, enfin ça a rien à voir avec l'amour, ça a rien à voir avec le sentiment amoureux. Donc je suis arrivée j'habitais en Allemagne, j'ai grandi en Allemagne, et je suis arrivée en France à l'adolescence et avec zéro code concernant la conjugalité ou le sentiment amoureux ni la maternité. Et là, je me suis retrouvée avec, avec des filles qui ne parlaient que de mecs et de tomber amoureuse, etc. Et puis aussi, même si c'est... Quand on est petite, on parle beaucoup des enfants quand on aura, quand on sera grande, etc. Après, ça passe. Au collège, ça passe. Après, c'est plus les mecs et tout. Mais il y a quand même ce truc de faire couple. Bon. Et moi, je trouvais que c'était con. Enfin, ça m'intéressait pas, les garçons. Enfin, ça m'a intéressé. Les garçons, ça m'a intéressé, bien sûr. Ça m'a beaucoup intéressé, d'ailleurs. Ça m'intéresse beaucoup, toujours. Mais assez tard. Et donc, je pense que c'est... je me suis toujours sentie marginale par rapport à ça, par rapport au code de la féminité traditionnelle, on va dire. Donc ça m'a posé des problèmes assez rapidement, disons, dès l'adolescence. Et puis ensuite, ça m'a posé des problèmes même pendant ma vie amoureuse. Alors non pas avec mes amoureux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des amoureux formidables, qui ont été des pères formidables. Voilà. Mais avec certains mecs, enfin, quand je parle d'amoureux, c'est des relations longues, sérieuses, etc. Mais il y a certains mecs qui jugeaient. Moi, je me souviens d'un truc qui me choque encore aujourd'hui. C'est un mec, c'est lui qui avait abordé la question, parce que je l'avais pas abordé moi spontanément, parce que c'était un problème, donc je ne l'abordais pas. Et il m'avait demandé si je voulais des enfants. Je lui avais dit non. Et lui non plus, il ne voulait pas d'enfant. En revanche, il trouvait que chez moi, que le fait qu'une femme ne veuille pas d'enfant, c'était un problème. Donc il m'avait larguée à cause de ça.
Ah oui.
Oui. Parce qu'il trouvait que c'était bizarre. Okay. Voilà. Et en fait, c'est très symptomatique de tout. C'est-à-dire que la maternité, c'est au cœur de la sociabilisation des femmes. Et le fait de parler de ses enfants, par exemple, dans une entreprise ou entre femmes, c'est un truc qui est tellement énorme, de parler de sa famille, de trucs. Et moi, non seulement j'en parle pas, puisque je n'en ai pas, mais en plus je n'en veux pas. Donc forcément, ça te met au banc de la société, d'une certaine manière. C'est très marginalisant. Qu'est-ce que tu veux dire, tu vois, dans les conversations de machine à café, quand on te dit alors et toi, parce que si y a un certain moment, mais ça arrive très tôt en plus, j'ai remarqué, il y a un certain moment où on te dit alors et vous avez des enfants, et ensuite là tu dis non, et là bah ça souffle vraiment un air froid, t'as l'impression d'entrer chez Picard, tu vois, quand tu dis ça, c'est vraiment. Et donc il y a eu tout un moment où, par une espèce de réflexe de défense absurde, je me suis mise à détester tout ce qui relevait de la maternité. Parce que ça m'avait marginalisée, cette question. Et donc je me suis mise, mais pendant longtemps, à ne pas supporter ni les bébés, ni les enfants, ni la maternité. Ce qui était absurde, parce que j'ai toujours adoré les gosses. Vraiment, j'adore les enfants, c'est juste que je n'éprouve pas le besoin d'en fabriquer moi-même. Mais j'adore la cuisine aussi, j'adore faire la cuisine, mais c'est pas pour autant que je suis chef. Là, c'est un peu la même chose, bon. Et voilà.
Et alors, quelle est la pire remarque qu'on ait pu te faire sur ton choix ?
Oh, pff, ah, j'en aurais tellement. Il faudrait que tu fasses plusieurs saisons de podcast. Bon, j'en ai énormément, enfin, j'en parle beaucoup dans mon livre, mais j'ai eu des remarques, mais j'en ai quasiment quotidiennement des remarques, donc, alors, un peu moins maintenant, et puis en plus, ça m'atteint beaucoup moins, mais on m'a demandé, par exemple, il y a un mec qui m'a demandé, mais matter of fact, hein, qui m'a demandé, mais t'as été violée?
Ah oui.
Comme si ça avait un rapport, enfin, mais un peu sur le même ton que s'il m'avait demandé, ah, tu viens de Grenoble? Enfin, voilà. Et donc parce qu'il y a énormément de préjugés sur les nullipares volontaires. Rien que le mot nullipare, il y a quand même beaucoup à dire rien que sur le mot nullipare. La nullipare, c'est littéralement une meuf qui ne va nulle part, ou nullipare avec un nul comme zéro, comme naze, quoi. C'est dur comme nom. Donc des remarques. En fait, il y a énormément de préjugés. Ben, je les ai tous eus. Hein. Je les ai tous eus. Donc, j'ai eu égoïste, sans cœur, t'aimes pas les enfants. On m'a demandé si j'étais lesbienne, bien sûr, puisque les lesbiennes, c'est bien connu, n'ont pas de désir d'enfant. Et puis, en plus, elles sont stériles. Hein, toutes, c'est bien connu. Donc, mais je les ai tous eus, les clichés, tous.
Et alors, ton chéri a 3 enfants ?
Mon chéri a 3 enfants.
Pas de bol pour quelqu'un qui n'en veut pas.
Alors, non seulement mon chéri a 3 enfants, mais mon chéri... a un instinct paternel de la taille de la Corse. C'est-à-dire que mon chéri a toujours voulu, ce qu'on disait au début, tu sais, sur le désir de paternité, etc. Lui, il a toujours complètement assumé et dit, et voilà, il a toujours voulu être père. Toujours. Il adore s'occuper des enfants, il adore ça. Et en fait, ce désir de paternité était... il voulait être père avant même de rencontrer la mère de ses enfants. Mmh. Donc c'était un truc, il adore les enfants, quoi. Bon. Et il aurait bien mélangé son ADN au mien. Donc ça a été un sujet entre nous.
Est-ce que ça a été un sujet déjà pour toi quand tu l'as rencontré, de savoir qu'il avait des enfants ?
Ça n'a pas été anodin. Ça n'a pas été anodin. Bon, après... c'est pas un défaut, hein, le fait d'avoir des enfants. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là justement. Mais on s'entendait très bien. Et puis ses enfants étaient. D'abord, il a trois enfants, mais elles ont des écarts. Ces trois filles, elles ont des écarts d'âge assez importants. Et donc la grande, elle avait 21 ans quand je l'ai rencontrée. Il y avait la deuxième avait 15 ans et la petite dernière avait 7 ans. Donc voilà. Et puis bah elles sont cool, elles étaient cool. J'imagine que si elles m'avaient jeté des cailloux, je pense que je serais partie finalement en courant. Mais ça s'est bien passé. Mais non, ce qui a été vraiment un sujet, donc c'est pas ses enfants. Ce qui a vraiment été un sujet, c'est que je n'en veuille pas. Entre nous, ça a été vraiment un problème. Ça a été pendant longtemps un problème.
Ouais.
Parce que pendant, disons, 5 ans, il m'a quand même bien harcelé avec ça. Enfin, ça revenait tout le temps, en fait, sur le tapis. Et à chaque fois qu'il entendait une minuterie, « Ah, c'est ton horloge biologique !» Je disais, non, c'est la pizza, c'est le micro-ondes, c'est le truc. Non, c'était compliqué, ça.
Finalement, vous avez trouvé un terrain d'entente.
Il a fini par lâcher l'affaire, parce que, bon, ça fait 8 ans, quand même, qu'on est ensemble, donc il a compris, là, je crois qu'il a... Voilà, il s'est fait une raison.
Et du coup, quel est ton rôle dans la vie de ses enfants à lui ?
En fait, je me suis beaucoup occupée de la petite dernière, Mila, qui vit avec nous d'une semaine sur deux, parce que évidemment, mon amour est en garde alternée. Hein, puis alors, quand il ne plaisante pas avec la garde alternée, hein, c'est vraiment bon. C'est pas du tout le genre de père un week-end sur deux et puis les vacances quand j'y pense. Hein, c'est vraiment, il s'occupe énormément de ses enfants. Et puis ensuite, bah Anna, la deuxième, est grande et Salomé, j'ai un scoop, la première est encore plus grande et elle attend un enfant, donc je vais être belle mamie à la fin du mois. Je vais être belle mamie à la fin du mois. Elle attend une petite fille. Auprès de ces deux grandes, des deux aînées, j'ai eu moins un rôle puisqu'elles étaient déjà grandes quand on s'est rencontrées. Donc c'est pas comme si elles étaient toutes petites ou bon. Mais auprès de Mila, on est resté proches et je définis pas vraiment mon rôle. Je m'en suis beaucoup occupée parce que j'aimais le faire. J'aimais beaucoup le faire. Comme je l'ai dit, j'aime les enfants. Je ne suis pas allergique aux enfants, contrairement à ce qu'on croit souvent. Donc, elle était là. Donc, elle était là. Moi, ça fait un moment que je travaille chez moi. Donc, elle était là quand j'étais là. Donc, bref, son père travaille à l'extérieur. Donc, on était beaucoup ensemble dans la maison, quoi. Donc, je m'en suis occupée beaucoup. Maintenant, elle s'occupe d'elle toute seule, hein, puisqu'elle elle va avoir 16 ans. Je ne me suis jamais vécue comme belle-mère, en fait. C'est plus... Moi, je les considère vraiment comme des individus avec qui j'ai des relations. Il y aurait beaucoup de choses à dire, d'ailleurs, sur ce statut de belle-mère. Peut-être que j'y consacrerai un livre bientôt. Mais donc, je ne me suis pas... j'ai pas vécu un... Enfin, je ne me suis jamais vue comme belle-mère, quoi. Pour moi, c'est des individus, c'est des femmes, c'est des jeunes femmes avec qui j'ai des relations affectueuses. Mais pas lié à la maternité, puisque la maternité, pour moi, ça n'existe pas. Enfin, je sais pas ce que c'est. Et je n'ai pas envie de connaître. Donc, j'ai des relations affectueuses avec elle. Voilà.
Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui n'ont pas d'enfants aussi, des femmes qui ne désirent pas d'enfants?
Il y en a peu. Il y en a peu pendant... j'ai des copines qui sont mères. J'ai aucune copine qui ne veut pas d'enfants. J'ai des copines de mon âge qui n'ont pas d'enfants, mais plus par circonstance, parce que en fait, même moi, encore souvent, je me rends compte que enfin, je suis en décalage complet avec mon. J'ai pas l'impression d'avoir 37 ans. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir 10 ans de moins, quoi, encore maintenant. Donc, je pense que. Et puis, il y a plein de copines comme ça qui ont vécu des tas de trucs, puis tout d'un coup, elles ont 37 ans et elles se disent ah merde, oui, c'est vrai qu'il faudrait que j'y pense. Mais en fait, elles se sont jamais dit. Je veux un enfant absolument maintenant. Enfin, c'était pas un projet viscéral, disons, mais c'était pas une absence d'envie non plus. C'était juste la vie qui a passé et puis tout d'un coup, bon, elles ont cet âge-là et puis elles se disent pas ouais, bon, et puis peut-être que ça arrivera pas et peut-être. Mais je n'ai aucune copine qui, comme moi, affirme son désir de ne pas avoir d'enfant. Aucune. C'est rare, hein. On est juste pour l'anecdote, on bat non seulement le record de natalité en France, dans tout le monde occidental, donc dans tous les pays du nord de l'Europe et puis de l'Amérique du Nord compris, mais on est le pays où le taux d'infécondité est le plus faible. Donc il y a seulement 13% des femmes qui n'ont pas d'enfants en France, par rapport à des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre où elles sont entre 20 et 25%. Donc les femmes qui n'ont pas d'enfants, qu'elles se soient volontairement ou pas, c'est déjà beaucoup plus rare en France qu'ailleurs, en Europe ou en Amérique du Nord. Et la proportion des femmes qui déclarent ne pas vouloir d'enfants, là c'est encore plus rare. C'est-à-dire que il y a seulement 4,3% des femmes qui déclarent ne pas vouloir d'enfants. Donc je suis un peu genre une huître à perles. Je suis une perle d'huître. donc c'est rare. C'est en général. D'abord je pense que peut-être qu'il y en a peut-être plus. En fait, sur Bordel de Mer, moi, je me suis rendu compte que c'est un compte que j'ai dédié à toutes les femmes pour parler de leur expérience de la maternité, parce que je pense que c'est hyper important que tout le monde se parle, et oui, on va y revenir, je pense. Oui. Mais j'avais fait un sondage à un moment parce que je voulais savoir un peu qui y avait dessus, et il y a la moitié des abonnées de Bordel de Mer, elles ont plus de 30 ans, donc la moitié a moins de 30 ans. Et bon, ça, peu importe, mais enfin, c'est quand même. Voilà, les normes procréatives font que c'est quand même autour de 30 ans qu'on y pense sérieusement. Enfin, voilà. Et j'ai demandé aussi, je leur avais demandé si celles qui n'avaient pas d'enfants en voulaient. Et seulement la moitié déclarait en vouloir. Alors que le compte n'est pas dédié du tout aux nullipares volontaires, du tout. Moi, je voulais pas du tout qu'on crée une communauté encore. Je déteste les communautés, bon. Mais, alors. C'est quand même bizarre que sur Bordel de Mer, il y a à ce point des femmes qui disent bah non, moi j'en veux pas. Enfin, la proportion était vraiment beaucoup plus importante que dans la société, quoi. Donc je me dis que il y a peut-être un truc aussi de tabou. Enfin, moi je l'ai tellement vécu comme une agression. Enfin, la façon dont on me percevait en tant que femme qui ne voulait pas d'enfants, que il y a des femmes qui le déclarent, enfin qui le disent pas, quoi, et moi je le comprends très bien. Et
puis il y en a qui cèdent peut-être aussi à la pression.
Il y en a qui cèdent à la pression, bien sûr, et puis il y a des femmes qui ne savent pas aussi. Ça aussi, c'est un truc, c'est un peu comme les votes blancs, en fait. Personne ne s'intéresse aux femmes qui savent pas si elles veulent des enfants, mais je pense qu'en réalité ça, c'est la majorité des femmes aujourd'hui, réellement. Alors j'en sais rien, je suis pas sociologue encore une fois, mais on nous a tellement dit que c'était normal qu'on désire des enfants, alors que le désir est par essence culturel, le désir il n'existe pas à l'état de nature, ça n'existe pas. Mais on nous a tellement dit depuis notre enfance que c'est normal qu'on désire des enfants, que forcément quand tu veux pas d'enfants ou que tu sais pas si tu veux des enfants, tu dis je suis pas normale. Enfin, tu te poses beaucoup déjà en tant que femme de base, tu te poses des questions sur toi en permanence, puisque bon, déjà tu es louche, puisque tu es femme, tu es louche. Non mais c'est vrai, on se pose beaucoup de questions sur notre légitimité, à plein de niveaux. Et d'ailleurs, je trouve que cette histoire de désir, alors je m'éloigne encore une fois de ta question, excuse-moi. Il faut vraiment me rattraper, il faut tirer sur ma laisse, hein, parce que je pars toujours dans le décor, moi, bref. Parce qu'une idée en amène une autre et tout. Mais ce désir aussi est extrêmement culpabilisant pour les femmes qui ont des enfants, un ou des enfants, et qui ne l'ont pas farouchement désiré. Et je me rends compte sur Bordel de Mer qu'il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent justement, qui se disent qu'elles ne sont pas des bonnes mères parce qu'elles n'ont pas eu ce désir viscéral d'être des enfants, d'avoir des enfants. Et c'est fou parce qu'on nous présente tellement ce désir comme la norme, alors que c'est pas une norme, c'est pas la majorité des femmes qui ressent ça. Et c'est culpabilisant pour tout le monde, en fait.
Et alors, du coup, parlons de Bordel de Mer.
Oui.
Tu peux nous dire d'où est venue cette idée, quel est ce conte, quelle est sa vocation?
Au début, il y a ce projet de livre que j'ai depuis très longtemps, dans lequel je veux raconter mon désir de ne pas avoir des enfants. Et puis, au fur et à mesure de mes lectures, je me suis rendu compte que les mères ou les aspirantes mères, c'est pas très joli comme terme, mais de mon entourage, avaient elles-mêmes, elles subissaient des préjugés sur leur propre, autour de la maternité, autour de leur conception de la maternité. Et donc je me suis rendu compte que cette question de la maternité qu'on subit toutes, enfin cette pression autour de la maternité qu'on subit toutes, en fait, elle nous divisait. Et que le sujet de la maternité et de la non-maternité était un sujet de plus en plus clivant. C'est-à-dire que t'as les nulipares volontaires contre le reste du monde, t'as les mères qui allaitent contre les mères team biberon, contre team... voilà. T'as les team cododo contre les team... Enfin, c'est hallucinant, ces trucs. Et donc, la maternité et le maternage, c'est-à-dire le fait de s'occuper des enfants, ou pas, justement... ça crée des dissensions hallucinantes sur Internet, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de il y avait des livres et des contes de plus en plus spécialisés. Donc par exemple, tu as des guides qui sont consacrés à avoir un enfant à 40 ans ou avoir un enfant solo, enfin pour les mamans solo, etc. Et donc tu as des comptes dédiés comme ça à des communautés de mères ou de non-mères, parce que tu as des comptes aussi qui sont dédiés aux nunipares volontaires. Et je me suis dit, mais en fait on va pas y arriver, les meufs, parce que si on continue à ériger, et puis ensuite en plus à foutre des briques entre nous, et puis bien les colmatant, parce que en se confortant dans notre idée que c'est nous les meilleurs, ben on va pas y arriver, en fait. Parce que c'est vraiment la maternité et notre position à ce sujet qui crée des inégalités. Non seulement entre les hommes et les femmes, la maternité crée des inégalités entre les hommes et les femmes, on y reviendra peut-être, pas d'un point de vue économique, donc d'un point de vue social, mais ça crée aussi, et avant tout, je dirais, des inégalités entre les femmes. Et c'est ça qui est grave, c'est que ça crée des inégalités intrasexes. Et en fait, Bordel de Mer, j'ai voulu créer un conte, bizarrement ça n'existe pas, ou je ne crois pas, où chacune, quel que soit son âge, son orientation sexuelle, son genre, eh bien parle de son expérience de la maternité, ou de la non-maternité donc, et de ce que j'ai appelé la charge maternelle, c'est-à-dire toutes les pressions et les préjugés qu'il y a autour du fait qu'une femme doit être mère.
Voilà. Alors, tu as rapidement recueilli de nombreux témoignages.
Ouais, c'est dingue.
Pourquoi, à ton avis, un tel besoin de s'exprimer sur le sujet de la charge maternelle ?
Moi, j'ai remarqué, quand j'ai commencé à recevoir littéralement des centaines de témoignages par jour, puis ensuite j'ai écrit mon livre, donc j'ai un peu mis la pédale douce, parce que je peux pas tout faire, parce que je n'ai qu'un seul cerveau. Mais je me suis rendu compte que les centaines de témoignages que je recevais à une époque quotidiennement, ils commençaient souvent par... merci pour ce que tu fais, donc merci d'avoir créé un espace, et excuse-moi d'avance pour le pavé, ou alors si je suis hors sujet, etc., etc. Et là je me suis dit, mais il y a quand même un problème, quoi. D'abord, merci d'avoir créé cet espace, et puis surtout excuse-moi, et je me suis dit, mais c'est absolument hallucinant, cette gratitude ça veut quand même bien dire quelque chose de cette société qui n'écoute pas les femmes. Parce que s'excuser avant de parler, les mecs, ils font pas ça, quoi. Moi, j'ai jamais lu ni entendu un mec, surtout dans un espace qui lui est dédié, s'excuser de prendre la parole. Enfin. Donc là, je me suis dit, mais il y a quand même... Si on me remercie, donc c'est qu'on est soulagé de pouvoir s'exprimer. Et si on s'excuse, c'est que vraiment la parole des femmes autour de la maternité, elle n'est pas entendue. Il n'y a pas un centimètre carré de l'espace public... Même dans l'immense espace médiatique où il y a aussi les réseaux sociaux, etc., il n'y a pas d'espace pour dire que la maternité, Ben, ce n'est pas que la maternité Disney, quoi. Ce n'est pas que de la bienveillance, ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aussi spontané que tout le monde le dit. Alors, sur Bordel de Mer, moi, j'y tiens beaucoup. Il y a évidemment pas que, alors c'est pas que des complaintes, c'est pas de, mais c'est juste la maternité et la non-maternité quotidienne, quoi. Et je me rends compte que c'est très bizarre que ça n'existait pas. Moi, j'ai vraiment voulu créer un espace de parole pour le plus de femmes possible, le plus de femmes possible dans le monde entier. En plus, j'ai des témoignages de beaucoup de francophones, de Suisses, de Belges, de Canadiennes, de Marocaines. Enfin, c'est génial. J'ai vraiment des témoignages de partout. Et en fait, je me rends compte que il y a des points communs de ces femmes. D'abord, elles sont effectivement, comme je te l'ai dit, reconnaissantes, ce que je trouve très touchant et à la fois très inquiétant. Parce que le fait d'être reconnaissante, ça veut dire que bah, ça manquait, quoi. Enfin, qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Elles sont en colère. Elles sont en colère, ça c'est quasiment dans tous les témoignages, elles sont en colère, alors, contre elles-mêmes, parce que ça m'ennuie beaucoup en tant que féministe, mais elles sont en colère aussi contre le fait qu'elles soient la plupart du temps infantilisées. Et ça, leur infantilisation, c'est aussi un point commun. C'est-à-dire que, quelle que soit leur position par rapport à la maternité, on leur dit que ça ne va pas. Quand les femmes qui ne veulent pas d'enfants disent « je ne veux pas d'enfants », on leur dit « tu changeras d'avis ». Quand une femme dit qu'elle ne veut pas allaiter, on lui dit qu'il faut allaiter. Enfin, en fait, ça ne va jamais. La position c'est hallucinant. C'est quoi qu'une femme décide pour elle-même, pour son corps, pour l'enfant qu'elle a fabriqué ou pas, ça ne va jamais. Elle est infantilisée. Il y a toujours quelqu'un qui lui dit de faire autrement. Alors que ce soit son entourage ou la société, l'administration, voilà, ou le corps médical. Et c'est hallucinant. Et je voulais pour une fois qu'on parle. Qu'un maximum de femmes différentes s'expriment et qu'elles se rendent compte qu'il y a des points communs et que c'est en fait c'est ça qu'il faut cultiver, quoi. En fait, il faut absolument cultiver ces points communs pour accepter l'autre, enfin pour admettre les différences des autres.
Et d'où elle
faut pas conforter ces différences, tu vois.
Et d'où elle vient, selon toi, cette infantilisation ?
Parce que une femme, dans l'inconscient collectif, elle est toujours moins adulte et moins mûre qu'un homme, quoi. Donc, voilà. Enfin, parce qu'une femme, ça ne sait jamais... en fait, on te dit... c'est très ancré dans l'inconscient collectif. On l'a vu avec l'affaire Weinstein et MeToo, tu vois. On a beaucoup dit, une femme, ça ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Alors... en termes de rapport sexuel, mais on en est là aussi. Enfin, tu vois, c'est il y a quand même cette idée qu'une femme, ça sait jamais trop ce qu'elle veut, donc que c'est un peu immature par rapport à un homme. Alors je généralise évidemment, mais on a toujours peur de que je sais pas que les femmes sachent pas ou qu'elles se trompent ou si c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose qui revient souvent dans les témoignages en fait. C'est ce ras-le-bol. Ce ras-le-bol que leurs paroles ne soient pas entendues.
Et leurs désirs.
Et leurs désirs, quels qu'ils soient. Et leurs décisions. C'est très bizarre.
Est-ce qu'il y a un témoignage qui t'a marqué particulièrement ?
Oh, il y en a tellement. Alors là, vraiment, tous les témoignages m'ont profondément touchée. Peut-être que... alors, c'est pas que ça m'a plus touchée, mais ce que je trouve... qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui m'ont écrit. Voilà. Et donc c'est bien mon idée de base qui a présidé à l'écriture de ce livre, c'est vraiment que en fait la charge maternelle elle arrive tôt, quoi. Elle arrive vraiment tôt parce que j'ai des jeunes filles de 14 ans qui m'écrivent en plus des trucs hyper mûrs et hyper matures sur cette charge maternelle qui conditionne leur vie déjà. Quand les conseillers d'orientation leur disent « Ah ben non, tu peux pas être reporter de guerre parce que c'est pas un métier de femme, parce que tu pourras pas te consacrer à ta famille », c'est que ça quand même... Enfin, on est en 2020, tu vois. Et donc ça conditionne vachement les trucs. Ou alors, il y a une ado qui m'a dit qu'elle parlait d'enfants ou je sais pas quoi, enfin bref. Et puis qu'elle a dit à une de ses copines avec qui elle en parlait qu'elle en voulait pas, elle. Et spontanément, sa copine a dit « Oh, mais tu veux pas d'enfants, tu les aimes pas !» Et elle est allée raconter à toutes ses copines que donc le témoin, la jeune fille qui m'écrit, n'aimait pas les enfants. Donc, Tu vois, c'est une façon de les mettre au banc déjà de la société, de l'école, quoi, de la micro-société de l'école. Et cette question de la maternité, moi, ça m'a frappé. Je le savais parce que je l'avais éprouvé, mais je me rends compte, ça me conforte dans l'idée qu'effectivement, ça vient très tôt, quoi.
Et tu fais souvent la hola justement aux ados qui t'écrivent, tu les mets en avant. Est-ce que tu
vois... Moi, j'adore les ados de toute façon. Non, mais c'est vrai, j'adore les ados. Je passerai ma vie à leur parler. Je trouve que c'est, en plus, c'est une génération là qui est très intéressante, enfin qui est.
Est-ce que tu sens un progrès justement sur tout ce qui est pression sociétale, qui sont peut-être plus au courant que nous à l'époque?
Moi, je pense qu'il y a, alors certainement, moi, je pense que effectivement, les ados d'aujourd'hui sont pas les ados d'hier, enfin qui me ressemblent pas du tout. Moi, je trouve que c'est un vrai progrès, contrairement aux vieux cons qui trouvent que les ados, c'est pas bon. Moi, je trouve qu'ils sont géniaux, les ados. Enfin, évidemment, il y a des cons, hein, comme, enfin, c'est des individus, les ados, c'est pas là, c'est évidemment. Mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus, beaucoup moins inconscients. Ce qui veut pas dire qu'ils sont. Alors, il y a une côté d'insouciance qui est forcément pas très loin, mais ils sont beaucoup plus, je pense, conscients des enjeux sociétaux que...
Plus informés.
Et puis, il y a un truc, je pense qu'il y a une conscience un peu politique, quoi. Quand on voit ce qui se passe au niveau de l'écologie, mais au niveau du féminisme aussi, c'est une génération qui est beaucoup plus engagée que moi je l'étais. Moi, je n'avais rien à foutre de rien à 16 ans. Enfin, tout ce qui m'importait, c'était comment j'allais m'habiller pour qu'on me roule un maximum de pelles. Enfin, tu vois, c'est, non, mais vraiment, enfin, moi, j'avais rien à foutre de l'écologie. Enfin, c'était des trucs, ou du féminisme, c'était des trucs politiques, c'était des trucs d'adultes. Et en fait, je trouve que la génération, enfin, en tout cas, la génération qui m'écrit, la génération que je vois, elle parle de choses qui étaient jusque-là réservées aux adultes, et c'est super qu'elle fasse ça, quoi. C'est super qu'elle s'implique, et c'est super qu'elle se rende compte que l'avenir, ça dépend d'eux, quoi.
Est-ce que tu as des témoignages de pères ou d'hommes ?
Très peu, malheureusement. Très très peu. En fait, d'abord ça s'appelle bordel de mer. Ensuite, Instagram, c'est quand même un réseau social qui est plus féminin que masculin. Je crois qu'il y a 37% ou presque 40% des utilisateurs sont des hommes. Donc il y a quand même une majorité de femmes, même s'il y en a beaucoup des hommes. Alors il y en a, mais peu. Et je sais qu'en revanche, il y a beaucoup d'hommes qui lisent. Parce que j'ai mes statistiques et tout, mais j'ai peu de témoignages, malheureusement. Malheureusement, et j'aimerais beaucoup, parce que c'est très important aussi que, parce que les mecs aussi ont une charge paternelle, on va dire, une charge mentale par rapport à la... Mais c'est pas du tout la même que... La question de la parentalité n'a pas du tout la même place que chez nous, les femmes. Pas du tout. Mais j'aimerais bien qu'ils s'expriment à ce sujet, mais bon...
Est-ce qu'il y a des femmes qui prennent la parole pour les hommes ?
Oui, il y a énormément. Oui, ça, il y a énormément de femmes qui racontent les expériences de soit de leur mec ou de leur frère j'ai beaucoup de mais j'ai pas de témoignages directs, malheureusement. Très peu. J'en ai très peu.
Et tu parlais tout à l'heure de la maternité comme un peu le point d'ancrage de toutes les inégalités hommes-femmes. Peux-tu nous en dire plus, Fiona Schmidt?
Alors, je vais encore une fois être obligée de faire des généralités. Alors, en fait, la parentalité, ça crée des inégalités économiques entre les hommes et les femmes. De manière très simple, c'est que la grossesse interrompt l'activité, quand elles en ont évidemment, l'activité des femmes plus longtemps que l'activité professionnelle des hommes, puisque le congé de paternité est de 11 jours, rappelons-le, contre 8 semaines pour les femmes. Donc du coup, la parentalité est considérée comme un risque par les employeurs, par la culture d'entreprise. Mais de fait, la parentalité est supportée, encore aujourd'hui, majoritairement par les femmes. Donc, les femmes sont un risque quand elles sont Je me mets dans la tête d'un employeur, hein, ouais. Du secteur privé, je précise bien. Donc, la parentalité est considérée comme un risque par les employeurs. Mais comme elle est supportée et que ça reste un sujet de femme, ben, j'ai eu énormément de témoignages à ce sujet. Y a énormément de femmes, qu'elles veuillent des enfants ou pas, qui disent que entre 25 et 35 ans, on leur pose la question de savoir si elles veulent si elles projettent d'avoir des enfants. Et
en entretien,
alors c'est tout à fait illégal, bien sûr, mais la présomption de grossesse, la présomption de maternité est un facteur rédhibitoire pour l'entreprise, parce que ce soit dans une grande entreprise, alors un peu moins dans une grande entreprise, mais en tout cas dans une TPME, un congé de maternité, ça coûte plus cher. Donc, de fait, à l'entreprise, ça coûte plus cher. Donc, une femme à compétences égales, etc., au même âge, elle est moins sexy pour un employeur qu'un homme. Voilà. Tout simplement parce qu'un homme interrompt moins sa carrière. 11 jours s'il les prend. Et encore une fois, la plupart des hommes, en fait, qui prennent leur congé paternité sont dans le secteur public.
C'est un gros facteur, tu penses, d'évolution possible ?
Ça ne peut qu'être un facteur d'évolution. C'est-à-dire que quand tu interromps ta carrière, forcément, ça a des répercussions sur tes points retraite, sur ton avancement au sein d'entreprise, sur plein de choses. Enfin, il y a des tas de. J'ai vraiment énormément de témoignages à ce sujet, puisque j'avais lancé une thématique sur Bordel de mer, de femmes qui ont été placardisées. Ah oui, parce que c'est très intéressant aussi. C'est que y a beaucoup de femmes qui me disent qu'elles ont été rétrogradées. Alors évidemment, c'est illégal, mais une façon d'être, tu sais, d'être mise au placard, comme si en fait le fait d'avoir un bébé, ça leur avait ôté le cerveau. Tu sais, c'est très 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 bizarre, comme si le cerveau des mères en fait était contenu dans leur placenta. Mais c'est débile. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui me disent qu'on a décidé pour elles que du fait qu'elles étaient mères, que leur bébé était leur priorité, et que donc elles ne pouvaient plus se consacrer comme il fallait à leur carrière. Parce qu'il y a ça aussi, elles sont quand même victimes, toutes ces femmes, toutes ces mères, de préjugés selon lesquels une mère, c'est forcément une mère sacrificielle. Donc en fait, elle peut avoir un métier, hein, parce que ça c'est aussi le fait d'être femme au foyer, c'est très mal vu aussi, hein, donc il faut travailler, mais c'est bien d'avoir un job. Avoir un métier, c'est compliqué, et avoir une carrière, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que c'est parce que aujourd'hui encore une fois, le fait de travailler, en plus de la société fait que effectivement, quand, pour avoir une carrière, tu t'investis énormément, donc ça te prend du temps. Or, le fait d'avoir un enfant, de plus en plus, là aussi, on considère que le fait d'avoir un enfant, c'est lui donner du temps. Être une bonne mère, c'est lui donner beaucoup de temps. De plus en plus. Donc il y a un moment où les journées des mères sont pas extensibles, et on considère toujours que le métier de maman, on dit ça aussi beaucoup, le métier de maman, c'est le plus beau métier qui soit. Alors d'abord, ce n'est pas un métier puisque c'est gratuit, hein, donc c'est voilà. Puis que tu ne peux pas poser de RTT, etc. Tu n'as pas d'avancement professionnel, tu n'as pas de CE, tu n'as pas de cantine, tu es ta propre cantine. Donc, mais il y a encore cette idée que le seul métier qui vaille pour une femme, c'est maman. Et donc c'est un métier, c'est le métier entre guillemets qui prévaut sur les autres, les rémunérés. Et donc il y a beaucoup de femmes dans Bordel de mer qui me disent qu'en fait le fait d'avoir eu un enfant ébriguer des responsabilités, etc., c'était mal vu au sein de l'entreprise parce qu'elles étaient considérées comme des mauvaises mères. Donc en fait, l'employeur se mêlait de leur vie privée, tu vois. C'est-à-dire le fait d'avoir un enfant, et en fait, c'est comme s'il fallait choisir. Le fait d'avoir un enfant et de briguer un poste à haute responsabilité qui donc requiert un temps de présence ou un temps d'investissement énorme qu'elles ne peuvent pas donner à leur enfant, c'est mal. Moralement, c'est considéré comme mal. Il y a des faits réels, si tu veux. Mais il y a aussi toute cette idée encore très très commune que quand papa travaille beaucoup, c'est parce qu'il aime sa famille. Alors que quand maman travaille beaucoup, c'est parce qu'elle pense à elle. Donc elle est égoïste.
Est-ce que tu as des exemples ou des témoignages de personnes qui vivent en Suède, par exemple, où le système est
différent ? Oui. J'en ai sur le feed, d'ailleurs. Oui, effectivement, dans les pays du Nord... on parle beaucoup de la Suède, de l'Islande, comme l'Eldorado des égalités hommes-femmes. Alors effectivement, c'est nettement mieux qu'en France, mais c'est pas pour autant égalitaire à 100%. Enfin, c'est-à-dire que, évidemment, le congé parental est bien meilleur. Néanmoins, ce dont on parle nettement moins, c'est qu'effectivement, c'est pas complètement égal, puisque le congé, les pères prennent quand même moins de congés que les mères, et que ensuite, effectivement, les mères retournent à l'emploi, mais que ce sont des emplois qui sont moins rémunérés et beaucoup à temps partiel. Donc, la plupart des boulots à temps partiel, c'est un peu comme en France en fait, sont occupés majoritairement par des femmes. Donc, ce sont la fameuse conciliation, ce qu'on dit. C'est les hommes, ils concilient pas en fait. Hein. La conciliation, c'est un terme féminin exclusivement. C'est-à-dire que en fait c'est aux femmes, c'est comme si en devenant parent, en devenant mère, c'était aux femmes de s'organiser et jamais aux mecs en fait. C'est très bizarre. C'est pas les mecs qui, la plupart du temps, il y en a évidemment de plus en plus, peut-être, quoique, mais ce sont les femmes qui passent à temps partiel. Alors, volontairement ou pas, peu importe. Mais du coup, ça a des répercussions aussi sur leur salaire. Donc, sur l'égalité économique, c'est le nerf de l'égalité sociale. C'est la plupart des emplois précaires et la plupart des emplois mal payés, ce sont des emplois féminins.
Et alors, tout ça, t'en as fait un livre ?
Oui !
Qui va s'appeler comment ?
Qui s'appelle « Lâchez-nous l'utérus ». Qui est la baseline de Bordel de mer.
Donc c'est un recueil un petit peu de ton histoire et de tous les témoignages que tu as reçus.
Mais alors c'est un essai.
Oui.
Qui est effectivement irrigué par tous les témoignages que j'ai reçus et en fait j'ai voulu vraiment écrire un livre sur la parentalité qui soit accessible et qui soit destiné à toutes les femmes. Et aux pères, évidemment, enfin, aux hommes, pas aux pères forcément, mais je dis ça parce qu'il y a le dernier chapitre est consacré au rôle des pères. Et je voulais écrire vraiment, ça me tenait à cœur d'écrire un livre sur la parentalité qui concerne absolument tout le monde, que les femmes de tous âges, qu'elles soient mères ou pas, qu'elles veuillent l'être ou pas, qu'elles puissent l'être ou pas, qu'elles soient hétéro, homo, bi, trans, cisgenre, voilà. C'était vraiment important pour moi. Et donc c'est un livre thématique sur l'histoire du fameux instinct maternel, enfin où je déconstruis en fait plein de préjugés sur la maternité, sur la nulliparité et sur ce fameux instinct maternel, sur l'horloge biologique, sur plein d'histoires comme ça qui plombent notre inconscient collectif en fait.
Et donc la vocation de ce livre, ce serait de faire changer les mentalités ?
En tout cas, je l'espère. En tout cas, faire changer les mentalités, c'est un gros chantier. Mais en tout cas, j'aimerais que ça fasse réfléchir à certains sujets sur lesquels moi-même j'ai mis énormément de temps à réfléchir. Comme je l'ai dit, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que mes propres a priori, mes propres préjugés sur la maternité, en fait, ça creusait les inégalités de genre, en réalité. Et que ça ne faisait pas du tout avancer le débat. Enfin, c'est-à-dire que le répondre à un préjugé par un autre préjugé, ça n'a pas de sens, ça annule l'argument, en fait. Et que mon problème, c'était pas les mères, c'était ou la maternité. Mon vrai problème, c'est qu'on considère que je doive être mère. Donc c'est la culture, cette culture sexiste qui fait que en tant qu'individu femelle mon life goal c'est d'être mère et qu'on ne conçoit toujours pas en 2020 que je puisse avoir d'autres choix, enfin que je puisse faire d'autres choix.
Et alors si tu regardes 10 ans en arrière, est-ce que tu aurais pensé une seule seconde que tu serais aujourd'hui en train de parler de tous ces sujets de maternité en tant que nullipare?
Non, pas du tout. Et c'est ça qui est dingue, parce qu'il y a encore peut-être 2 ans, je m'y voyais pas non plus, parce que il y a encore 2 ans, je considérais que la maternité, c'était pas mon problème, alors que c'est le problème littéralement de toutes les femmes, puisqu'on est toutes, absolument toutes, amenées à se déterminer en tant que citoyennes et en tant qu'individus aussi, par rapport à cette question-là, par rapport à ce noyau central de la maternité. On est toutes amené à se définir par rapport à la productivité de nos ovaires.
Merci beaucoup Fiona.
Merci Shane.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Fiona, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 39 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.